Eh bien, bon après-midi donc à toutes et à tous. Hein, c'est bien d'inclure tout le monde, la moitié de l'humanité, hein, c'est bien aussi, hein, les femmes et les hommes. Je suis très heureuse de découvrir votre région que je ne connaissais pas. Et en fait, il fait beau. Je crois que c'est la tradition d'aller chercher des champignons. Et donc, merci d'être ici plutôt qu'aux champignons. Alors, je vais me présenter brièvement. Je suis une chercheuse. Je fais de la recherche fondamentale sur le cerveau. J'ai travaillé récemment en particulier sur les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Creutzfeldt-Jakob, les prions, la vache folle. Toutes ces questions pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui règlent la vie et la mort des neurones. Donc ça, c'est ma première vie, parce que j'ai une deuxième vie qui consiste à m'intéresser à ce qui se passe dans la société et à tenter de faire auprès du grand public une démarche de diffusion des connaissances scientifiques pour en particulier lutter contre un certain nombre d'idées reçues, de préjugés, sur le déterminisme en biologie. Et là, aujourd'hui, on va parler de tous les préjugés sur les différences entre les femmes et les hommes. Comme vous le verrez tout à l'heure, en fait, c'est vraiment un sujet qui articule de façon vraiment très, très illustrative les rapports entre la société et la démarche scientifique. Alors, pour introduire mon sujet, voici les résultats d'un sondage qui a été fait en 2012. Êtes-vous d'accord avec les idées suivantes? Les femmes ne sont pas douées pour l'orientation dans l'espace. Oui, disent 36% des femmes et 58% des hommes. Les hommes ne sont pas multitâches. Oui, disent 54% des femmes et 28% des hommes. Deuxième question. Ces différences entre femmes et hommes sont-elles dues à des raisons biologiques? Oui pour 54% des femmes et 57% des hommes, à l'éducation pour 37% des femmes et des hommes. Donc ces chiffres illustrent bien la persistance des préjugés naturalistes sur les différences cognitives et comportementales entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Alors si maintenant on va voir ce qu'on en dit sur Internet et qu'on tape les mots-clés « cerveau humain futur ». Si vous regardez les images associées à ces mots-clés, vous avez des cerveaux greffés avec des puces électroniques ou même des lecteurs de CD. Vous avez des explications scientifiques sur le fonctionnement du cerveau et également ici une image qui représente une interrogation philosophique sur le cerveau et la pensée. Et vous remarquerez que toutes ces images concernent uniquement des sujets masculins, comme si les femmes n'avaient pas de cerveau, ne faisaient pas partie de l'humanité et n'avaient pas de futur. Alors, dans ce cas-là, on persiste sur Internet et cette fois-ci, on va taper des nouveaux mots-clés, à savoir « cerveau femme future ». Alors là, c'est pas pareil. Alors, côté futur, vous avez des créatures de rêve dans des combinaisons spatiales sexy. On trouve des femmes qui ont mal à la tête ou bien qui sont amoureuses. Et ce qu'on voit en majorité, ce sont toutes ces comparaisons caricaturales entre les cerveaux des femmes et des hommes, avec dedans tous les stéréotypes qu'on peut imaginer sur les différences entre les sexes. Donc, posons-nous sérieusement la question, les femmes ont-elles un cerveau comme les hommes? Alors, il existe bien évidemment des différences entre les cerveaux des femmes et des hommes dans les zones du cerveau qui contrôlent les fonctions associées à la reproduction. C'est en particulier une région qui s'appelle l'hypothalamus. Cette région est située à la base du cerveau, ici, près de la glande hypophyse. Et dans l'hypothalamus des femmes, On peut voir des neurones qui s'activent chaque mois pour déclencher l'ovulation et on ne verra pas ce type d'activité cyclique dans le cerveau des hommes. Donc, bien évidemment, des différences pour tout ce qui contrôle la physiologie de la reproduction. Mais en ce qui concerne maintenant les fonctions cognitives, là, il existe un certain nombre d'idées reçues qu'on a déjà vues tout à l'heure. Les femmes seraient, soi-disant, naturellement multitâches, capables de faire plusieurs choses à la fois. On remarquera qu'elles font plusieurs choses à la fois, qu'elles sont multitâches, surtout à la maison. Les enfants, la cuisine, le ménage, j'en passe et des meilleurs. Et soi-disant, cette capacité multitâche viendrait de particularités dans leur cerveau. Alors en fait, cette idée est issue d'une publication ancienne qui date de 1982 qui montrait que ce qu'on appelle le corps calleux, c'est-à-dire, vous voyez, il y a des fibres nerveuses ici qui relient les deux hémisphères cérébraux, et donc que ce corps calleux, avec ses fibres nerveuses, était un peu plus épais chez les femmes que chez les hommes, d'où peut-être plus de communication entre les hémisphères et plus de capacité à faire plusieurs choses à la fois. C'était une hypothèse. Donc cette expérience, elle a été faite donc il y a longtemps. Elle a été réalisée sur 20 cerveaux, ce qui n'est quand même pas beaucoup, et ces cerveaux étaient conservés dans le formol et coupés en tranches, comme vous le voyez là. Or, depuis 1982, tout a changé, parce que on a quitté le formol. Dorénavant, on utilise pour étudier le cerveau les nouvelles technologies d'imagerie cérébrale par résonance magnétique, ou IRM, qui ont permis de réaliser un rêve pour nous neurobiologistes, c'est-à-dire de pouvoir enfin étudier le cerveau vivant à travers la boîte crânienne. Et donc, c'est quand même plus pratique pour étudier le cerveau que de travailler sur des cerveaux morts conservés dans le formol. Et quand on regarde toutes les études en IRM qui sont faites sur ce fameux corps calleux, on s'aperçoit alors que, statistiquement parlant, il n'existe pas de différence entre les femmes et les hommes dans l'épaisseur des fibres du corps calleux. On continue avec les préjugés. Les filles seraient soi-disant naturellement douées pour le langage, donc avec un esprit littéraire, tandis que les garçons, eux, seraient d'emblée plus performants pour s'orienter dans l'espace et donc meilleurs en géométrie, avec un esprit scientifique et matheux. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ces préjugés ? En 1968 a été lancée la théorie des deux cerveaux. D'après cette théorie, les femmes seraient meilleures pour le langage parce qu'elles auraient un hémisphère gauche plus développé, alors que les hommes seraient meilleurs dans l'orientation dans l'espace parce qu'ils auraient un hémisphère droit plus développé et plus performant. Eh bien, je peux vous dire que cette théorie, qui a eu un certain succès, en fait, maintenant est tombée complètement dans la désuétude. C'est-à-dire, cette théorie, qui date d'il y a 50 ans, elle n'a pas du tout été confirmée par les études qu'on peut faire à l'heure actuelle en IRM. Et si on fait ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on rassemble toutes les études en IRM faites ici, là, entre 1995 et 2009, avec un gros échantillon de 2000 femmes et hommes testés, et qu'on regarde la répartition des zones du cerveau qui contrôlent le langage, on s'aperçoit que, statistiquement parlant, il n'existe pas de différence entre les femmes et les hommes dans les régions qui contrôlent le langage. Alors, on passe maintenant au raisonnement mathématique. On entend trop souvent dire que les filles n'ont pas la bosse des maths, elles n'auraient soi-disant pas un cerveau fait pour les maths et les sciences. Alors, il existe des travaux qu'on qualifie de travaux de psychologie expérimentale ce sont des personnes qui s'intéressent justement au développement des capacités cognitives chez les jeunes enfants et qui s'intéressent en particulier au développement des systèmes cognitifs qui permettent de maîtriser les opérations élémentaires en mathématiques. Alors, quand on fait ce genre d'expérience, tous les travaux convergent pour montrer que entre les âges de 6 mois et 2 ans apparaît le sens des nombres et les capacités à s'orienter dans l'espace. Et ensuite, vers les âges de 4-5 ans, les enfants utilisent le langage pour manipuler les nombres, pour compter et pour aussi manipuler les notions de géométrie. Et on note que toutes ces aptitudes au raisonnement mathématique se déroulent de la même façon, se développent à l'identique chez les filles et chez les garçons. Alors là, je vais vous parler d'un phénomène intéressant que les enseignants, hélas, constatent au quotidien. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Alors, on s'est intéressé justement à tester les capacités d'orientation dans l'espace chez des jeunes filles. Pour cela, on leur a fait faire un test qui s'appelle le test de rotation mentale en trois dimensions. Et l'enjeu du test est de dire si ces deux objets sont semblables ou différents. Et donc, pour répondre, il faut faire une sorte de rotation mentale dans sa tête. Alors, si avant de faire le test, on dit aux jeunes filles, vous savez, dans ce test, vous les filles, vous êtes meilleures que les garçons. Elles vont faire 28% d'erreurs et dans leur cerveau, on voit s'activer des zones qui sont impliquées dans la mémoire et l'attention. Mais si, avant le test, on leur donne un message négatif en leur disant, vous savez, les garçons sont meilleurs dans ce test, à ce moment-là, elles vont faire 42% d'erreurs et dans leur cerveau vont s'activer des zones qui contrôlent les émotions. C'est-à-dire que le message négatif a fait en sorte que les filles ont eu moins confiance en elles quand elles passaient le test, ce qui a entraîné ce qu'on appelle une charge émotionnelle supplémentaire qui a donc interféré avec les processus cognitifs qui permettent de bien passer le test. Vous voyez, de façon totalement inconsciente en plus, parce que quand elles sont sorties de la machine et qu'on leur a demandé « Est-ce que le message préalable qu'on vous a donné vous a influencé ?» elles ont tout dit « Non, 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 pas du tout. » Donc ça montre à quel point ces stéréotypes sont intériorisés de façon, la plupart du temps, très inconsciente. Et donc, ces stéréotypes, ils diminuent les performances, mais ça, c'est valable chez les filles, et on a fait des tests équivalents chez les garçons. Donc, quand on dit qu'il faut lutter contre les stéréotypes, c'est vraiment parce que ces stéréotypes enferment les gens dans des boîtes, et le fait d'être comme ça, enfermé dans des boîtes, va faire que leurs performances ne vont pas être égales parce qu'ils auront été auparavant trop influencés par les stéréotypes. Alors, encore une étude en IRM, on a demandé à des personnes de faire un calcul mental. Alors, on a choisi des femmes et des hommes qui ont toutes et tous aussi bien réussi le calcul mental avec les mêmes scores dans les mêmes temps. Et vous pouvez voir que dans les cerveaux des femmes, cette personne active plutôt des régions antérieures du cerveau, celle-ci plutôt des régions postérieures, et on retrouve le même type de variabilité dans l'activation du cerveau dans le groupe des hommes. C'est-à-dire que pour arriver à une même performance dans le calcul mental, chaque individu a sa propre façon d'activer son cerveau, ce qui correspond à autant de stratégies différentes pour arriver à faire le calcul mental. Et donc, en conséquence, la variabilité qu'on peut observer entre les personnes d'un même sexe égale ou dépasse la variabilité éventuelle entre les sexes. Donc ça, c'est un exemple de variabilité dans le fonctionnement du cerveau mais il y en a tout autant dans l'anatomie du cerveau. Et ça, les neurochirurgiens le savent bien. Vous avez ici des belles images en IRM, hein, c'est pas du formol. Et vous pouvez voir que ce qu'on appelle les circonvolutions cérébrales, c'est-à-dire ces sillons qu'on trouve à la surface du cortex cérébral, eh bien, ces sillons ont tous des cheminements différents. Et de même, ce que vous voyez en blanc ici, ce sont les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins ont aussi des cheminements différents, les vaisseaux sanguins qui sont dans les méninges qui entourent le cerveau. Donc, nous avons toutes et tous des cerveaux différents, indépendamment du sexe. C'est-à-dire que, par exemple, si vous demandez à un neurochirurgien, vous lui montrez un cerveau, vous lui demandez de deviner si ce cerveau appartient à un homme ou à une femme, il ne peut pas répondre. Alors maintenant, la question qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre d'où vient cette variabilité entre les cerveaux. Alors pour le comprendre, il faut déjà se pencher sur les processus de développement du cerveau pendant la vie embryonnaire. Pendant la vie embryonnaire, le système nerveux se fabrique progressivement pendant 9 mois. Et pendant ce processus de fabrication du système nerveux, les neurones se multiplient de façon très intense. Mais arrivé à la naissance, les neurones cessent de se multiplier. Mais le cerveau est loin d'être terminé parce que seulement 10% de ces 100 milliards de neurones sont connectés entre eux. Vous avez ici représenté des coupes très fines qu'on a faites à travers le cortex cérébral à la naissance, aux âges de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 15 mois, 24 mois, etc., etc. Et on peut noter que ce qu'on voit là, ce sont des neurones. On peut noter que le corps cellulaire des neurones, c'est-à-dire les points noirs, n'ont pas une densité qui varie avec le temps, mais ce qui varie de façon très, très évidente, ce sont toutes ces ramifications entre les neurones qui témoignent de la fabrication de ce qu'on appelle les synapses, c'est-à-dire les connexions entre les neurones. Dans un cortex cérébral humain adulte, hein, on a 100 milliards de neurones et on a 1 million de milliards de connexions entre les neurones. Ça veut dire qu'un neurone est en moyenne connecté à 10 000 autres. Vous voyez le degré de complexité du cerveau. Or, 90% de nos milliards de synapses se fabriquent après la naissance, c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant est en interaction avec le milieu extérieur. Et c'est précisément à ces périodes où l'environnement et l'apprentissage vont jouer des rôles très importants dans la fabrication des synapses et dans la formation des circuits de neurones. Et on utilise le terme de plasticité cérébrale pour décrire cette propriété particulière du cerveau réellement à se fabriquer, à se façonner en fonction des interactions avec le monde extérieur. Alors, on va prendre un premier exemple de plasticité cérébrale. On va s'intéresser au développement du système visuel. Vous savez qu'à la naissance, la vision du petit bébé est extrêmement sommaire. Et ce n'est qu'à l'âge de 5 ans que l'enfant a une vision qui est comparable à celle de l'adulte. C'est-à-dire qu'il faut 5 ans pour fabriquer un système visuel. Il faut 5 ans pour que, à partir des neurones de la rétine, poussent des prolongements dans le nerf optique, lesquels vont rentrer à l'intérieur du cerveau et se connecter dans le cortex cérébral, dans les régions qui vont traiter les informations lumineuses. Et pour que ce système visuel se connecte bien, il faut que, de façon impérative, il y ait une interaction avec l'environnement, c'est-à-dire il faut que la lumière stimule les neurones de la rétine. Il existe des cas de cataracte précoce, hein, ce sont des enfants dont le cristallin est opaque. Eh bien, ces enfants, il faut les opérer le plus tôt possible pour que leur système visuel puisse se connecter de façon normale. Et là, ce que je vous décris pour le système visuel, c'est pareil pour le système auditif, c'est pareil pour tous les systèmes sensoriels, moteurs, et aussi, bien sûr, pour les fonctions cognitives, qui se développent progressivement en interaction avec le monde extérieur. Et par exemple, les témoignages qu'on a eus sur les enfants sauvages, ou bien sur ces enfants qui ont été retrouvés dans les orphelinats de Roumanie, tous ces enfants avaient des retards mentaux très importants et étaient incapables de parler. Donc, pour qu'un cerveau se construise, il faut que de façon obligatoire, il y ait une interaction avec le monde extérieur. Alors, cela nous ramène à la grande question fondamentale de l'inné et de l'acquis. Parce qu'on en revient toujours à cette question. Quelle est la part de la nature? Quelle est la part de la culture? Donc maintenant, on n'est plus dans les pourcentages inné, acquis, nature, culture. En fait, grâce à cette notion de plasticité cérébrale, on s'aperçoit que les deux sont totalement indissociables. Les deux sont complètement liés. On va dire que la nature, c'est la capacité des neurones à se connecter entre eux. Et la culture, c'est la réalisation effective du câblage entre les neurones. Alors, encore un exemple de plasticité qui se passe pendant le développement de l'enfant. Enfin, là, on s'est intéressé à des adultes, des pianistes professionnels. Mais rassurez-vous, c'est pareil chez les violonistes. Ce sont tous ces musiciens professionnels. Ils ont commencé très tôt l'apprentissage de leur instrument. Et ils continuent à jouer à l'âge adulte. Et chez ces personnes, il y a un épaississement du cortex cérébral dans les régions qui contrôlent la coordination des doigts et l'audition. Et ce phénomène d'épaississement du cortex est dû à la fabrication de connexions supplémentaires entre les neurones. Et point important, l'épaississement en question est proportionnel au temps consacré à l'apprentissage du piano pendant l'enfance. Donc c'est bien la pratique du piano qui a entraîné ce phénomène d'épaississement et non pas des personnes qui seraient nées avec des gros cortex et qui de ce fait auraient plus facilement pu devenir musiciens. Alors ça c'est un exemple donc, qui se développe pendant l'enfance, mais on a tout autant de plasticité à l'âge adulte. On a regardé le cerveau de mathématiciens et de mathématiciennes et on s'aperçoit que chez ces personnes il y a ce phénomène d'épaississement du cortex dans les régions qui contrôlent la représentation mentale des nombres et des données géométriques et à nouveau le phénomène est proportionnel au nombre d'années d'expérience en mathématiques. Alors encore une expérience faite chez des étudiants auxquels on leur a demandé d'apprendre à jongler avec 3 balles. C'est pas très facile, ils sont capables de bien jongler au bout de 3 mois et on s'aperçoit alors que 3 mois suffisent pour entraîner le phénomène d'épaississement dans les régions du cortex qui contrôlent la coordination des avant-bras et la vision. Et point particulièrement intéressant, si ces personnes qui viennent tout juste d'apprendre à jongler. Si elles arrêtent de s'entraîner, à ce moment-là, elles vont perdre leur habileté à bien jongler. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que les régions du cerveau qui étaient épaissies vont rétrécir. Donc ça vous montre bien cette notion de plasticité, hein, que les variations d'épaisseur du cortex peuvent être réversibles quand la fonction n'est plus sollicitée. Alors là, on a un exemple particulièrement intéressant de plasticité cérébrale. Il s'agit d'un homme de 44 ans, marié, père de 2 enfants et menant une vie professionnelle normale, qui se plaignait d'une sciatique. Alors il est allé consulter à l'hôpital de la Timone à Marseille, on lui fait un examen IRM et, aux surprises, on s'aperçoit que son crâne est essentiellement rempli de liquide, hein, c'est ce que vous voyez en noir, et que son cerveau est en fait réduit à une mince couche collée sur les parois du crâne. Alors, on lui a évidemment posé des questions. Il s'avère que cette personne, à la naissance, souffrait d'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, ça veut dire qu'il y a trop de liquide dans le cerveau du bébé. Et à ce moment-là, les médecins le détectent immédiatement et ils posent un drain à la base du crâne pour évacuer le liquide en excès. Et normalement, tout rentre dans l'ordre. Et dans cet exemple particulier, le drain s'est bouché et progressivement, au cours des années, la pression du liquide a gentiment refoulé le cerveau sur les parois du crâne. Et tout ça s'est passé sans entraîner aucune gêne dans la vie de cette personne qui ne s'est jamais doutée de rien. Donc, vous voyez, c'est un joli cas de plasticité cérébrale, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, ce cas n'est pas si rare, parce qu'à l'heure actuelle, avec la multiplication des examens en IRM, on découvre de plus en plus de personnes qui ont des cerveaux bizarroïdes et qui vont très bien. Donc, ce cas-là, vous voyez, vous illustre déjà une question qui, pour nous, est fondamentale en neurobiologie, et question qui n'a toujours pas de réponse, qui est celle d'essayer de comprendre quelles sont les relations entre la structure et le fonctionnement du cerveau. On est complètement incapable de dire comment ça se passe dans le cerveau de cette personne avec une morphologie tellement invraisemblable et qui fonctionne de la même façon qu'un cerveau normal. Et cela vous montre aussi qu'il n'y a pas de lien direct entre la forme du cerveau et les aptitudes intellectuelles. Alors maintenant que vous savez tout sur cette plasticité cérébrale qui fait que notre cerveau se remanie en fonction des expériences vécues et en plus à tous les âges de la vie, vous pouvez comprendre l'importance de l'environnement social et culturel dans la construction du cerveau, dans le développement psychologique et cognitif, et par là même dans la construction de nos identités de femmes et hommes. Alors, à la naissance, le petit bébé n'a évidemment pas conscience de son sexe. C'est progressivement au cours du câblage de ses neurones, au cours du développement de ses fonctions cognitives, qu'il va pouvoir en prendre conscience. En fait, il n'en a conscience qu'à partir de l'âge de 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 2 ans et demi, il est capable de s'identifier au masculin ou au féminin. Mais avant 2 ans et demi, on lui a déjà sexué son environnement. On lui a donné des jouets différents, des habits différents, on a décoré sa chambre de façon différente. On sait aussi que les adultes n'ont pas les mêmes aptitudes avec les bébés, selon qu'ils se sont des filles et des garçons. Les filles vont davantage leur parler, leur sourire, leur chanter des chansons, alors que les garçons, ils vont les faire sauter en l'air, il y aura bien plus d'interactions physiques. Et ces différences, vous voyez, d'environnement, hein, les adultes n'ont pas conscience qu'ils agissent différemment avec les bébés, mais de très nombreuses études de psychologie et d'éthologie le montrent. Donc c'est tout ce processus donc, d'interaction de l'enfant avec son environnement physique, affectif, culturel, social, tout ce qui fait qu'il va participer aux expériences vécues par cet enfant, eh bien, tous ces processus vont contribuer à forger certains traits de personnalité, certains goûts, certaines aptitudes en fonction des normes du féminin et du masculin qui sont données par la société dans laquelle l'enfant est né. Et tout ce processus, donc, de construction progressive de l'identité sexuée est réalisé grâce, justement, aux propriétés de plasticité du cerveau. Alors, cela nous renvoie à ces notions de sexe et de genre, c'est-à-dire de construction sociale et culturelle des identités et des rapports sociaux entre les sexes. La découverte de la plasticité cérébrale vient, vous le comprenez bien, enrichir et conforter les études en sciences humaines et sociales sur le genre. Le genre, ce n'est pas du tout une théorie, c'est un concept qui ne nie pas la réalité biologique, bien au contraire, il l'intègre complètement avec cette notion de plasticité du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, les deux, à nouveau, sont indissociables. Hein, comme l'inné et l'acquis sont indissociables, sexe et genre sont indissociables. Le genre va influer sur la biologie et la biologie va influer sur le genre. Alors maintenant, nous allons aborder un grand sujet qui concerne les hormones. Alors autour de ces questions-là, il y a des mythes et il y a des réalités. Alors, si vous allez sur Internet, ou bien si vous regardez dans les médias, la presse écrite, la radio, la télé, vous pouvez noter qu'en ce moment en particulier, il y a deux hormones qui sont très à la mode, c'est l'ocytocine et la testostérone. Alors, dans tous ces médias, vous pouvez lire, par exemple, que l'ocytocine agit sur le cerveau pour stimuler la sexualité, l'attachement du couple, le lien maternel, les interactions sociales et l'empathie. Ça fait quand même beaucoup. Quant à la testostérone, elle est décrite comme étant l'hormone du désir, de la sexualité, de l'agressivité et donc de la conquête. Alors, face à ces discours qu'on trouve dans les médias, eh bien, revenons à la science et réfléchissons sur quelles bases scientifiques sont basées ces déclarations. On va commencer avec l'ocytocine, la fameuse hormone du lien. Alors, l'ocytocine, c'est une hormone. Hein. La définition d'une hormone, c'est une substance qui est sécrétée par une glande dans le sang. Donc cette substance, elle passe dans la circulation sanguine et ainsi elle va pouvoir avoir des actions sur différents organes. Alors l'ocytocine a une action au niveau donc du corps qui est très bien connue. Elle joue un rôle dans la contraction de l'utérus au moment de l'accouchement et également sur les glandes mammaires pour l'allaitement. Mais en ce qui concerne l'action de l'ocytocine sur le cerveau, pour justement entraîner certains comportements, là, un certain nombre de questions se posent. Alors déjà, qu'en est-il chez les animaux ? Il existe un laboratoire aux États-Unis qui est spécialisé sur toutes ces questions. Et dans ce laboratoire, dirigé par un certain Larry Young, qui est un professeur très très connu au niveau international, donc dans son laboratoire, les chercheurs ont fait de très nombreuses expériences sur des rats et sur des souris, et ils ont regardé les effets de l'injection de l'ocytocine dans le cerveau sur les comportements. Et ils ont vu qu'il y avait un lien quand ils injectaient de l'ocytocine. Cela entraîne une stimulation de l'attraction sexuelle entre les mâles et les femelles. Il y a une augmentation des soins aux petits et également des reniflements et de toilettage entre congénères. Et c'est ça qui a fait dire à Larry Lung que l'ocytocine est l'hormone de l'attachement chez les rongeurs. Parce qu'on pourra noter que dans une revue très fournie sur tous les travaux qui ont été faits sur l'ocytocine, dans cette revue, qui fait un bilan de toutes les recherches, Larry Young, donc le grand spécialiste lui-même, déclare « Les données sur le rôle possible de l'ocytocine dans les relations sociales humaines sont rares et non conclusives. » Effectivement, parce que chez l'humain, ce n'est pas facile de regarder les effets de l'ocytocine. Déjà, on ne peut pas l'injecter directement dans le cerveau. Vous comprendrez pourquoi. Ensuite, on pourrait se dire, on va tenter de l'injecter dans le sang. Mais en fait, on se heurte à un obstacle parce que la molécule d'ocytocine, quand elle est dans le sang, dans la circulation générale, elle ne peut pas pénétrer dans le cerveau. Parce que le cerveau, il est protégé par une sorte de membrane qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui protège justement le cerveau de tout un tas de substances qui sont dans le sang et qui pourraient être toxiques. Et donc l'ocytocine, elle ne rentre pas dans le cerveau. Donc on est bien ennuyé pour faire de l'expérimentation et montrer éventuellement des effets de l'ocytocine. Alors les chercheurs ont trouvé un stratagème. Ils se sont dit, on va l'administrer par spray nasal. On va se faire des sniffs d'ocytocine avec l'idée que quand on fait un sniff, l'ocytocine passerait à travers la muqueuse nasale et de cette façon pourrait de façon plus directe atteindre la circulation cérébrale directement. Mais ça, c'est une hypothèse qui n'a jamais été démontrée. Mais malgré ça, il existe de très nombreuses expériences où on fait sniffer l'ocytocine. Je vais vous en illustrer une. Là, c'est une équipe de chercheurs allemands qui a étudié justement les effets du sniff de l'ocytocine. Ils ont d'abord mesuré la distance entre deux personnes lors d'une première rencontre. Donc, ils ont comparé 30 hommes mariés avec 30 hommes célibataires face à une femme séduisante. Et les résultats montrent qu'après un sniff d'ocytocine, les hommes mariés gardent une distance supplémentaire d'environ 20 cm vis-à-vis de la femme comparativement aux célibataires. Et ils en ont conclu sans problème que l'ocytocine favorise la fidélité dans le couple en réduisant les relations de proximité. Nous allons dire que c'est une conclusion hâtive. Hélas, tous les travaux chez l'humain, ou enfin la grande majorité des travaux chez l'humain portant sur les effets du sniff de l'ocytocine sont de ce style-là. Parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas de preuve d'une action directe de l'ocytocine sur le cerveau humain. Donc déjà, on en a parlé, sa pénétration dans le cerveau par le sniff n'est pas démontrée. D'autre part, et là c'est là que c'est encore très important, on ne connaît pas, on n'a aucune donnée sur le mode d'action éventuel de l'ocytocine sur le cerveau. C'est-à-dire que on n'a pas trouvé ce qu'on appelle de récepteur à l'ocytocine qui se trouverait sur la membrane des neurones. Parce que pour qu'une substance puisse agir sur le cerveau, donc sur les neurones, il faut qu'elle se colle sur la membrane de ces neurones. Elle se colle sur ce qu'on appelle des récepteurs. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune donnée qui montre l'existence de récepteurs à l'ocytocine dans le cerveau humain. Et enfin, toutes ces expériences, elles sont faites en général sur des tout petits nombres d'individus et évidemment dans des conditions de laboratoire complètement artificielles par rapport à la réalité de ce que représentent les relations humaines. Donc on peut conclure que les données expérimentales chez l'humain ne permettent pas de conclure sur le rôle de l'ocytocine dans les liens amoureux ou sociaux, malgré tout ce qu'on peut vous raconter là-dessus. Mais néanmoins, je peux vous dire que le commerce de l'ocytocine est florissant. Allez voir sur Internet, il y a de l'ocytocine en spray qui se vend à des prix divers. Hein, c'est vraiment la potion magique, le filtre d'amour que tout le monde attend, qui est utile non seulement entre les femmes et les hommes, mais aussi avec les animaux, c'est pas mal aussi. Et aussi, ils en proposent pour améliorer les relations dans l'entreprise, entre les employés. Enfin, c'est un commerce et un business qui va croissant. Alors maintenant, on s'intéresse à la testostérone. Donc la testostérone, donc c'est une hormone à nouveau qui est libérée dans le sang. Elle est fabriquée chez les hommes par les testicules, mais elle est également fabriquée par ce qu'on appelle les glandes surrénales. C'est des glandes qui sont au-dessus des reins. Et elles sont fabriquées par ces glandes surrénales aussi bien chez les femmes que chez les hommes, mais en quantité plus faible. Alors cette testostérone, elle a des actions sur le corps qui sont bien connues, et en particulier, elle a des actions sur le volume musculaire, sur la force musculaire, aussi sur la pilosité, enfin elle a plein d'actions différentes. Mais à nouveau se pose la question de son action sur le cerveau. Alors, chez les animaux, il y a de très nombreuses expériences faites dans des espèces animales très diverses qui montrent que l'injection de testostérone dans le sang stimule l'attraction sexuelle entre les mâles et les femelles et également renforce l'agressivité entre les mâles. Mais quand on a affaire maintenant aux humains, à nouveau se pose la question des mécanismes d'action de la testostérone sur le cerveau qui sont très peu connus. Et vous allez voir que les preuves expérimentales qui, soi-disant, montreraient que la testostérone a des effets sur la sexualité et sur la violence, eh bien que ces preuves expérimentales sont bien moins solides que ce qu'on souvent on vous laisse croire. Alors voici une étude qui a été faite chez tout un échantillon d'hommes sains d'âge moyen 35 ans. On leur a fait une injection de testostérone et on les a suivis pendant 3 mois avec un questionnaire tous les 15 jours concernant leur désir et leur activité sexuelle, les comportements liés à l'irritabilité, agression verbale et physique vis-à-vis du partenaire, humeur, confiance en soi. Et cette étude, très, très, très complète, hein, très bien faite sur le plan de la méthodologie, montre que l'injection de testostérone n'a pas eu d'effet statistiquement significatif sur les comportements testés. Alors encore une autre publication sur ce sujet-là, c'est une publication qui fait vraiment le bilan de toutes les recherches qui tentent de montrer des liens entre la testostérone et les comportements sexuels et sociaux. Et cette étude montre que dans une population générale de plusieurs milliers d'hommes adultes en bonne santé qui ont été testés, on ne trouve pas de relation statistiquement significative entre le désir sexuel, l'agressivité et la concentration de testostérone dans le sang. Et cette étude montre également que chez des jeunes adolescents qui parfois peuvent présenter des comportements violents, eh bien ces comportements violents sont présents bien avant le pic de testostérone lié à la puberté. Alors pourquoi est-ce que, contrairement aux animaux, l'être humain échappe à l'action des hormones ? Donc la raison tient à l'évolution qui a doté l'Homo sapiens d'un cerveau unique en son genre, avec en particulier le développement exceptionnel de ce fameux cortex cérébral que vous voyez là. C'est-à-dire que ce cortex cérébral, il s'est tellement développé en surface qu'il a dû se plisser pour arriver à tenir à l'intérieur de la boîte crânienne. C'est ces fameuses circonvolutions. Alors à l'heure actuelle, on est capable, avec des moyens informatiques, de modéliser un cortex cérébral. Ici, c'est un vrai cortex cérébral dans le formol, et là, c'est un cortex cérébral modélisé, que donc on va pouvoir déplier virtuellement. Et on s'aperçoit alors que sa surface est de 2 mètres carrés sur 3 millimètres d'épaisseur. C'est ça qu'on a dans la tête. Alors, à quoi il sert, ce cortex cérébral? Ce cortex cérébral, c'est le siège des fonctions cognitives les plus élaborées, le raisonnement, la mémoire, la pensée, l'attention. Et ce cortex cérébral que vous voyez ici en coupe, en fait, il contrôle toutes les régions profondes du cerveau qui sont impliquées dans les comportements instinctifs et les émotions. En fait, ce cortex cérébral, vous voyez, toutes les relations entre ce cortex et les régions profondes du cerveau, ce cortex cérébral, en fait, il va court-circuiter les programmes biologiques instinctifs qui sont programmés par les hormones. On va dire que chez nous, aucun instinct ne s'exprime à l'état brut. Tous nos instincts, que ce soit la faim, la soif, l'attraction sexuelle, sont évidemment ancrés dans la biologie, mais leur mode d'expression est contrôlé par le cortex et donc par la culture. Prenons l'exemple de la faim, qui est vraiment l'instinct de base, évidemment, indispensable. Je pense à autre chose. Pour la survie de la personne. Donc, le comportement de faim est complètement contrôlé par un programme génétique et également par tout un tas d'hormones qui sont sécrétées dans le tube digestif qui vont faire qu'on a cette sensation de faim et qu'on va manger. Bon, en l'occurrence, cet instinct tellement fort programmé biologiquement, eh bien, seul l'être humain est capable de dire « Eh ben moi, demain, je fais une grève de la faim pour des idées politiques. » Et si on regarde tous les comportements liés à la prise alimentaire dans les différentes cultures partout sur la planète, on s'aperçoit que les rituels des repas sont extrêmement différents selon les civilisations. Les heures de repas ne sont pas les mêmes, les mets qu'on va consommer ne sont pas les mêmes. Tout ce qui est régi autour du comportement alimentaire, en fait, est le fruit d'interactions sociales et de normes sociales qui vont faire que ces instincts sont contrôlés par la culture. Alors, on continue avec quelques chiffres. Notre cortex cérébral humain, donc, il occupe les deux tiers du cerveau. Dedans sont concentrés les trois quarts de nos milliards de synapses et sa surface dépliée est 10 fois plus importante que chez les grands singes. Et c'est ça qui fait dire aux spécialistes de l'évolution que c'est vraiment l'extension de surface du cortex cérébral humain qui a permis l'émergence des fonctions propres à l'Homo sapiens, à savoir le langage, la conscience d'exister, la conscience réflexive, les capacités de se projeter au-delà du présent, les capacités d'imagination, les capacités de rêve, tout ce qui va faire qu'on n'est pas en permanence collé à une réalité présente. Et c'est ces fonctions cognitives qui sont les nôtres qui nous donnent ce qu'on appelle un libre arbitre, c'est-à-dire une liberté de choix dans nos comportements. Les êtres humains, dans le fonctionnement de leur cerveau, ont un fonctionnement justement qui est lié à des représentations mentales. Ces représentations mentales sont le fruit de stratégies intelligentes qui ne sont en aucun cas déterminées par les hormones. Et malgré tout ça, malgré toutes ces connaissances acquises en neurobiologie ces dernières décennies, la connaissance de la plasticité cérébrale en particulier, eh bien, malgré tout ça, persiste toujours au XXIe siècle ce qu'on appelle les idées réductionnistes, les idées essentialistes, qui laissent croire que l'être humain serait simplement réduit à une machine neuronale qui serait programmée par les hormones. Alors, ces questions appellent à une réflexion éthique, justement sur l'impact social et politique du réductionnisme biologique, qui voudrait finalement invoqué des raisons biologiques pour expliquer l'ordre social. Par exemple, affirmer que l'ocytocine rend les femmes amoureuses, empathiques et maternelles, et donc qu'elles seraient naturellement faites pour être fidèles à leur partenaire et s'occuper des enfants, ça revient à remettre en cause les conquêtes sur l'égalité sociale, économique et politique entre les femmes et les hommes. De même, prétendre que la testostérone donne aux hommes plus d'appétit sexuel que les femmes et que la violence résulte de pulsions hormonales irrépressibles, c'est aussi remettre en cause les lois réprimant le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes. Au XIXe siècle, c'était les mesures du crâne et du cerveau qui avaient été utilisées pour justifier la hiérarchie entre les sexes, les races et les classes sociales. À l'époque, on pensait que les hommes, soi-disant plus intelligents que les femmes, avaient forcément cette capacité parce que leur cerveau était plus gros, mais on pensait aussi que les blancs avaient des cerveaux plus gros que les noirs et que les patrons avaient des cerveaux plus gros que les ouvriers. Donc maintenant, nous sommes au XXIe siècle et malgré tous les progrès de nos connaissances sur le fonctionnement du cerveau, persiste toujours cette idéologie du déterminisme biologique qui voudrait que dès le départ, les cerveaux des petites filles et des petits garçons soient câblés différemment, qui voudrait que les hormones aient une imprégnation permanente sur nos cerveaux, ce qui nous empêcherait de faire autre chose que ce que les stéréotypes veulent nous faire faire. Et donc, dans ce contexte-là, il est important, justement, que les biologistes s'engagent au niveau social pour défendre une éthique dans la production du savoir, pour diffuser justement des connaissances scientifiques de qualité auprès d'un grand public et par là même contribuer à construire une culture de l'égalité entre les femmes et les hommes, avec comme argument évidemment tellement important celui de la plasticité cérébrale. Et si vous voulez en savoir plus sur la question, je vous renvoie à ces quelques livres. Celui-ci, c'est le tout nouveau. Il est sorti il y a 15 jours. Donc, il reprend tout ce que je viens de vous dire dans cette conférence. Et là, ce sont des livres plus anciens, mais toujours d'actualité, sur les questions, ici, cerveau, sexe et pouvoir. Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie ? Il traite de la plasticité cérébrale. Et le petit rose, c'est les filles ont-elles un cerveau fait pour les battre ? Je vous remercie.